J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que Satan a beaucoup de puissance et d'influence sur la Terre présentement? Les Saintes Écritures vont nous renseigner à ce sujet aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, il ne nous reste que quelques émissions avant de terminer ce merveilleux enseignement de l'Apocalypse. Et je suis certaine qu'une fois de plus, on va être bien édifiés et encouragés, alors que ce livre de la Bible va répondre aux questions que voici. Est-il possible de prouver la validité du prémillénarisme? Quelle est la véritable nature de l'homme? Est-ce que Satan a beaucoup de puissance et d'influence sur la Terre présentement? Où sera-t-il pendant le millénium? Où sera-t-il après le millénium? Les croyants peuvent-ils faire confiance à Dieu en toutes circonstances? Lors du millénium, où seront ceux qui seront morts pour Jésus-Christ pendant la grande tribulation? Comment devons-nous interpréter la Bible? Comment la Bible décrit-elle la première résurrection? Restez à l'écoute, le pasteur Régent Joly va nous enseigner la merveilleuse parole de Dieu dans quelques instants. Mais premièrement, remercions le Seigneur ensemble pour sa parole et pour ceux qu'il choisit pour l'enseigner. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui a continué à travers les âges, qui s'est rendue jusqu'à nous. Merci d'avoir pourvu afin qu'on te connaisse, afin qu'on connaisse ta volonté à notre égard. Merci aussi pour les hommes que tu choisis pour nous l'enseigner. On te demande de bénir ton serviteur aujourd'hui, Régent Joly. Sois avec lui, mon Dieu, et touche nos cœurs par les choses que tu vas lui mettre dans la bouche. On te le demande au nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Nous débutons aujourd'hui l'étude du chapitre 20 de l'Apocalypse. Validité du prémillénarisme. Si vous suivez cette série d'émissions depuis un certain temps, vous savez déjà que je suis un prémillénariste en ce qui concerne l'interprétation des prophéties de la Bible. Je crois en outre que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Je pense, en toute sincérité, que ce système d'interprétation est le plus conforme à la pensée de l'apôtre Jean. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous décidez d'opter pour un autre système d'interprétation, vous serez en bonne compagnie. Je connais plusieurs hommes de qualité qui défendent un point de vue différent du mien, et j'en compte même parmi mes amis. Mais je suis quand même certain de la validité de mon interprétation. Premièrement, le millénium ne peut pas débuter avant que Satan soit éjecté de la scène terrestre. Vous ne pouvez pas avoir un monde idéal ici-bas aussi longtemps que Satan rôde en liberté partout dans le monde. Certains prétendent que Satan est déjà enchaîné, mais que sa chaîne est très longue. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais au fait, à quoi bon l'enchaîner s'il peut aller où il veut ici-bas? Deuxièmement, la malédiction du péché doit être extraite de la terre physique avant l'inauguration du millénium. Les Écritures prophétisent que, pendant le millénium, le désert fleurira comme une rose et beaucoup d'autres merveilles semblables qui ne se sont manifestement pas encore réalisées à ce jour. La raison est simple. La malédiction du péché existe encore sur cette terre. Troisièmement, la résurrection des élus de l'Ancien Testament doit s'accomplir au début de cette période de 1000 ans. S'ils avaient ressuscité avant la grande tribulation, ils auraient dû attendre le début du millénium. Mais le Seigneur ne les ressuscitera pas avant la fin de la grande tribulation. La prophétie de Daniel, chapitre 12, versets 1 et 2, est claire sur ce sujet. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cette prophétie se trouve dans l'Ancien Testament. Michaël a déjà été identifié comme l'ange protecteur de la nation d'Israël. Daniel est un juif et Michaël est le défenseur des enfants de ton peuple, c'est-à-dire le peuple de Daniel, en d'autres mots, Israël. L'époque de détresse, incomparable, est évidemment la grande tribulation. Ensuite, plusieurs des enfants d'Israël, qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront. Dieu reviendra pour sauver les élus d'Israël après la grande tribulation, conformément à la prophétie d'Ésaïe, chapitre 25, versets 8 et 9. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Dieu a délégué à son Fils Jésus-Christ le pouvoir de ressusciter les morts, comme on peut le voir dans Jean chapitre 5, versets 28 et 29. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Quatrièmement, les élus de la grande tribulation qui auront été marqués du sceau de Dieu et qui auront refusé la marque de la bête sont inclus dans la résurrection des élus de l'Ancien Testament et ils régneront avec Jésus-Christ durant le millénium. Cinquièmement, le millénium est le test final de l'homme sous des conditions idéales. Certains prétendent que l'homme est naturellement bon et que cette bonté s'exprimera dans des conditions et circonstances idéales. Eh bien, pendant le millénium, l'homme obtiendra ses conditions idéales de vie, la véritable nature de l'homme. Mais puisqu'en réalité, il est un pécheur incorrigible et incurable, à la fin du millénium, il se rebellera encore contre Dieu. La rébellion du cœur humain et sa nature dépravée sont impossibles à comprendre avec notre entendement humain limité. Si nous pouvions nous voir nous-mêmes comme Dieu nous voit, nous ne pourrions pas le tolérer. Le millénium prouvera hors de tout doute que, même dans les meilleures conditions, le cœur de l'homme reste mauvais. Le millénium constitue le test final de l'humanité avant son entrée dans l'éternité. Il est à espérer que les hommes auront enfin compris qu'ils n'accèdent pas au ciel à cause de leur propre bonté, mais grâce au sang de Jésus-Christ, versé pour eux sur la croix et accepté par la foi. Le millénium est la réponse à cette requête contenue dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 10, « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». Ce règne sera établi sur la terre et il s'appellera le millénium. C'est le royaume promis par l'Éternel à son serviteur, le roi David, entre autres dans 2 Samuel chapitre 7, les versets 12 à 17, ainsi qu'au chapitre 23 verset 5. Il a promis ce règne à David et à sa postérité. Dans le psaume 89, versets 36 à 38, « J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Ce royaume a été prédit dans les psaumes 2, 45 et 110 et dans les livres des prophètes, Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 5, chapitre 11, versets 1 à 9, chapitre 60 à 62, ainsi qu'au chapitre 66. Le prophète Jérémie, chapitre 23, versets 3 à 8, chapitre 32, versets 37 à 44, prophète Ézéchiel, chapitre 40 à 48, prophète Daniel, chapitre 2, versets 44 et 45, chapitre 7, versets 13 et 14, chapitre 12, versets 2 et 3, prophète Michée, chapitre 4, versets 1 à 8, prophète Zacharie, chapitre 12, versets 10 à 14, ainsi que le verset 21. Tous ces prophètes ont parlé de ce royaume, les grands comme les petits. De nombreux autres passages des Écritures parlent de ce royaume théocratique. En fait, il est un des thèmes principaux des prophéties de l'Ancien Testament. c'est le royaume de Dieu sur la terre. Il sera inauguré au retour futur de Jésus-Christ. Satan enchaîné pour 1000 ans. Les premiers versets du chapitre 20 nous décrivent les événements précédant le millénium. Lisons Apocalypse chapitre 20 versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je le signale à nouveau. L'expression 1000 ans est employée 2 fois dans les 3 premiers versets et 6 fois dans les 7 premiers versets. Pourquoi l'apôtre Jean aurait-il autant insisté sur ce chiffre si nous devons seulement lui assigner une valeur symbolique? Combien de fois aurait-il dû le répéter avant qu'il devienne réel pour nous? Il le mentionne plus souvent que plusieurs autres choses considérées importantes par plusieurs. Et pourtant, ces choses sont mentionnées seulement 2 ou 3 fois dans l'ensemble de la Bible. Il mentionne 6 fois la durée de 1000 ans, et la première est en relation avec Satan. Plusieurs commentateurs préfèrent séparer notre passage de l'ère du millénium. Ils le classifient comme la dernière étape du jour de colère que nous avons étudié précédemment. Ce point de vue s'appuie sur le contraste frappant de la situation sur Terre avant et après l'emprisonnement de Satan. Son incarcération et sa complète absence de la terre changent les conditions de vie des habitants. Ceux-ci passent des ténèbres à la lumière. Satan est le dieu de cet âge. Il est le prince de la puissance des airs. Sa puissance et son influence sont actuellement énormes au-delà des calculs de l'ordinateur le plus puissant. Son retrait pave la voie au millénium, car avec Satan en liberté, le millénium ne pourrait pas commencer. Nous pouvons donc voir la relation de Satan avec le millénium. L'un ne peut pas exister en présence de l'autre. Satan doit être enfermé afin que le millénium ait lieu. Les hommes parlent d'apporter la paix et la prospérité sur la terre et de beaucoup d'autres choses semblables. Au début de la grande tribulation, l'humanité pensera avoir atteint son but avec la première bête. Mais celle-ci ne sera pas capable de tenir ses promesses, même si pour un certain temps cela semblera être le cas. Or, aussi longtemps que Satan rôde en liberté dans ce monde, nous n'obtiendrons pas des conditions de vie idéales comme pendant le millénium. La puissance de Satan diminue. Continuons l'étude de notre passage. Il est dit qu'un ange saisira Satan. Il semble que la puissance du diable sera diminuée. Un ange ordinaire pourra devenir son geôlier pour le jeter et l'enfermer pendant 1000 ans. Cette situation contraste avec Jude, verset 9, où l'archange Michel, un des plus puissants, n'osait pas porter contre Satan un jugement injurieux. Et plus tôt, dans l'Apocalypse, au chapitre 12, versets 7 à 9, nous avons vu ces deux-là se livrer un furieux combat aidés de leurs armées respectives. Satan est jeté dans l'abîme. Cet abîme ne doit pas être confondu avec le lac de feu que nous verrons plus tard au verset 10. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ce bout de verset est sans aucun doute un des passages les plus énigmatiques des Écritures. Pourquoi Satan est-il de nouveau libéré après avoir été lié et jeté dans l'abîme? La réponse de Lewis Sperry Schaeffer à cette question est à la fois intéressante et amusante. Si vous m'expliquez pourquoi Dieu a laissé rôder Satan dans le monde jusqu'à aujourd'hui, je vous dirai pourquoi il le libérera de nouveau à la fin du millénium. Pourquoi Dieu laisse-t-il autant de liberté d'action à Satan? Dieu n'a pas agi ainsi pour le plaisir. Il veut accomplir son plan. Mais c'est là tout le problème du mal dans le monde. Pourquoi Dieu permet-il tout cela? Personnellement, je crois que Dieu a un plan et un programme pour l'humanité. Ici-bas sur Terre, nous sommes en formation. Si vous avez déjà suivi un entraînement sérieux, qu'il s'agisse d'un entraînement militaire ou pour les Olympiques ou simplement un régime alimentaire rigoureux, vous savez que ce n'est pas toujours facile. Pendant notre courte période de vie sur terre, nous subissons un entraînement spirituel, et Dieu gardera avec lui, pour l'éternité, les sujets qui subissent avec succès cet entraînement. Dieu possède un programme pour l'humanité dont certains éléments nous échappent toujours, aussi longtemps que notre entendement humain est limité par la présence du péché dans notre vie. Mais un jour, tout nous sera révélé. En attendant, nous devons lui faire confiance et marcher avec lui par la foi. Je me rappelle un jour où je me promenais avec mon père sur une route déserte. J'étais encore un petit garçon. Soudain, la tempête s'est abattue sur nous. J'avais peur. Le vent hurlait dans les arbres et nous étions tout mouillés. Je n'oublierai jamais ce moment où mon père a placé son bras autour de moi en me disant « Fils, fais-moi confiance ». Je me suis serré contre lui en lui faisant confiance. Au bout d'un certain temps, la tempête s'est calmée, et moi aussi. Mon père terrestre n'est plus de ce monde. Il me reste cependant un Père céleste, et je n'ai jamais cessé de lui faire confiance, même pendant les durs orages de cette vie. Devant toutes ces grandes questions, j'aimerais pouvoir vous donner des réponses, mais je ne le peux pas. Je peux seulement vous proposer de lui faire confiance comme je lui ai fait confiance. Il ne m'a jamais déçu. J'ai déjà lu un livre sur le problème du mal. Quand je l'ai terminé, j'avais encore le même problème. L'auteur ne l'avait pas résolu pour moi. Il a pris environ 200 pages pour dire ce que je peux vous résumer en une seule phrase. Je ne connais pas la réponse au problème du mal, mais un jour, ses serviteurs fidèles obtiendront une réponse de Dieu. En attendant, nous pouvons marcher avec lui par la foi. Dans notre passage, Dieu emprisonne Satan pendant 1000 ans, car sans cela, le millénium ne pourrait pas commencer. Revenons à notre texte. Le règne des élus de la tribulation. Lisons Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant la grande tribulation, plusieurs seront appelés à mourir pour Jésus-Christ. Mais ils ressusciteront et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pour une peine durant au maximum 3 ans et demi, les martyrs de la grande tribulation seront récompensés pendant 1000 ans. Ces 3 ans et demi seront bien sûr horribles et remplis de souffrances. Mais imaginons un instant 1000 ans à vivre et à régner sur terre avec Jésus-Christ. Vu sous cet angle, c'est une bonne affaire. Et, vu sous l'angle de l'éternité, la vie du chrétien est également une bonne affaire. Nous vivons nos joies et nos peines ici-bas en compagnie de notre Sauveur et Seigneur, et nous passerons l'éternité avec lui. Rappelons-nous à nouveau le principe central de l'interprétation des prophéties dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En d'autres mots, nous ne pouvons pas arracher un verset des Écritures de son contexte biblique et ensuite y fonder une doctrine selon nos goûts personnels. Une religion à la carte ne vous garantit pas votre place au ciel. Nous devons nous assurer que d'autres passages de la Bible corroborent notre interprétation. Lorsque notre passage est interprété littéralement, comme une déclaration solennelle de faits réels, il cadre admirablement avec le programme et le plan de Dieu dans son ensemble. Par contre, toute tentative de le réduire à la plus simple expression de symboles figuratifs et imaginaires le rend absurde. Spiritualiser ou allégoriser ce passage revient à le dépouiller de toute signification vitale. Elle conduit l'interprétation de la Bible à sa plus aride expression. Les trônes sont réels. Les martyrs sont réels. Jésus est réel. La parole de Dieu est réelle. La bête est réelle. Le passage est réel. La marque de la bête est réelle. Les mains et les fronts sont réels. Les 1000 ans sont réels. Et tout cela doit être interprété littéralement. 1000 ans veut dire 1000 ans et rien d'autre. Si Dieu avait voulu parler d'éternité, il aurait parlé d'éternité, comme il en parle un peu partout dans la Bible. S'il avait voulu parler de 500 ans ou 5000 ans, il l'aurait dit. Dieu n'a-t-il pas le droit de dire ce qu'il pense dans sa parole? Ici, s'il parle de 1000 ans, cela signifie 1000 ans. La première résurrection. Ce passage parle aussi de résurrection. Et ici aussi, il s'agit d'une résurrection réelle, littérale et corporelle. Le mot du texte original grec traduit ici par résurrection est « anastasie ». Il signifie « se lever debout ». Je ne suis pas un expert en la matière, mais je pense qu'il doit être plutôt difficile pour un esprit désincarné de se lever debout. Le même mot est utilisé par l'apôtre Paul au chapitre 15 de sa première épître aux Corinthiens, lorsqu'il enseigne sur la résurrection de Jésus-Christ et celle des croyants. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger », nous dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. J'avoue ne pas trop comprendre ce passage. Qui sont ces gens? D'après moi, il s'agit de l'assemblée totale qui prend part à la première résurrection. Cela inclut les sauvés de tous les temps. La première résurrection a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ. Elle est suivie par la résurrection de tous les croyants de l'Église qui sont morts avant son enlèvement dans les cieux, avant la grande tribulation, comme nous l'avons vu au chapitre 4 de l'Apocalypse. À la fin de la grande tribulation, nous assistons à la résurrection des martyrs de la grande tribulation. Ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ils sont accompagnés des élus de l'Ancien Testament, comme nous l'avons déjà vu dans Daniel chapitre 12, versets 1 et 2. En résumé, la première résurrection sera celle des justes, morts en Jésus-Christ, comme nous le verrons plus tard. La deuxième résurrection sera celle des perdus. Il est un peu simpliste de penser qu'à la fin du monde, Jésus reviendra pour ressusciter les morts, et qu'ensuite il placera les bons d'un côté et les méchants de l'autre avant de les envoyer chacun dans leur lieu pour l'éternité. En réalité, Dieu suit un programme bien défini dont les grandes lignes sont exposées dans les Écritures. Les élus de l'Ancien Testament et ceux de la grande tribulation régneront avec Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. L'Église, l'épouse de Jésus-Christ, prendra ses quartiers dans la Nouvelle Jérusalem située dans les cieux. Les élus qui n'ont pas été martyrisés pendant la grande tribulation entreront dans leur royaume, dans leur corps naturel. Ceux-ci, avec ceux qui naîtront pendant le millénium, seront testés pendant cette période du millénium. Tout comme Jésus-Christ, dans son corps glorifié, interagissait avec les apôtres et les disciples, les croyants de l'Église, avec leur corps glorifié, interagiront avec les multitudes vivant sur la terre dans leur corps naturel pendant le millénium. Cher ami, j'ai une question pour toi. De quelle résurrection feras-tu partie? De la première, c'est-à-dire des justes, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ou de la deuxième, celle des perdus? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 20, versets 6 à 11. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. J'ai bien aimé ton histoire au sujet du petit garçon qui marchait avec son père sur une route déserte alors qu'une tempête s'est abattue sur eux. Vous en souvenez-vous, mes amis? Le petit garçon avait peur, mais quand son père a placé son bras autour de lui en disant « Mon fils, fais-moi confiance », Le petit garçon s'est serré contre son père en lui faisant confiance. Quelle belle figure pour nous, les chrétiens, quand viennent des tempêtes dans nos vies. Par sa parole, Dieu nous rassure. Je ne sais pas combien de fois dans la Bible, Dieu dit des choses comme « ne crains rien, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas ». Et quand je vis une grosse épreuve et que je m'arrête sur un verset comme ceux-là, j'ai l'impression qu'il a été écrit juste pour moi et je me l'approprie. Ça me fait tellement de bien. Quand on est un enfant de Dieu, on sait que Dieu nous parle personnellement par sa parole et c'est merveilleux. À un tel point que je me demande comment les gens qui sont sans Dieu dans le monde peuvent passer leurs épreuves sans avoir recours à Dieu. Ça doit être terrible. Ils doivent être faits pas mal forts, ces gens-là. Mais ce qui est triste, c'est que même s'ils sont forts, même s'ils ont toute une force de caractère, ils ne seront jamais assez forts pour gagner leur ciel, même s'ils sont de très bonnes personnes. Et toi, mon ami, es-tu dans la catégorie des personnes qui se considèrent comme étant faibles? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as aucun effort à faire pour te mériter le paradis à la fin de tes jours, comme les gens se le souhaitent au jour de l'an. Te souviens-tu de ce que Jésus a dit au brigand quand il était sur la croix? Ce brigand qui lui a demandé de se souvenir de lui quand il viendrait dans son règne. Il a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Simplement parce que cet homme a cru en Jésus, il a reçu le don gratuit de la vie éternelle. Et toi, mon ami, toi qui es dans la catégorie de ceux qui se considèrent comme étant forts, eh bien, c'est peut-être parfait pour toi en ce moment. Mais peut-être que tu réussis dans ta profession, dans ton mariage, avec tes enfants, avec tes amis. Mais le seul moyen pour toi de passer l'éternité au ciel, dans la présence de Dieu, c'est de faire toi aussi comme ce brigand. Mon ami, toi aussi, tu es un pécheur perdu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Alors, mon ami, en ce moment même, fais une courte prière. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il pourra te dire, tout comme à ce brigand, « Tu seras dans le paradis avec moi. » Dans ton cas, ce n'est peut-être pas aujourd'hui, mais une vie, c'est très, très court. Je le sais, puisque depuis plus de 30 ans, je suis une enfant de Dieu. Et je n'ai pas vu le temps passer. Il est vrai qu'avec Dieu, ça passe bien plus vite. Ce qui est merveilleux, puisque ma destination, c'est le ciel, et celui qui m'y prépare une place, c'est le Seigneur Jésus, celui qui a été crucifié pour moi et qui est ressuscité glorieux le troisième jour, celui qui est monté au ciel, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour moi quand je pêche, celui qui a pardonné tous mes péchés, passés, présents et à venir, celui qui essuiera toutes larmes de mes yeux, celui pour qui je vais chanter des louanges pendant l'éternité. Il veut être ton Dieu.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.